Bonjour à tous. Pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, l'Iran a franchi une ligne rouge. Notre réaction a été en conséquence, a-t-il expliqué hier soir, après l'escalade militaire inédite entre l'État hébreu et l'Iran sur le théâtre syrien. Des tensions qui alarment la communauté internationale, l'Union européenne notamment. L'Europe déjà inquiète après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Donald Trump tourne désormais son regard vers la Corée du Nord. Le sommet historique entre le président des États-Unis et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aura lieu le 12 juin prochain à Singapour. À Séoul, les entreprises sud-coréennes se préparent déjà à rétablir le dialogue et le commerce avec le voisin du Nord. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, rencontre des syndicats de cheminots sur la réforme de la SNCF, conséquence du dialogue rétabli à Matignon entre les syndicats de cheminots et le gouvernement. La Chine devrait devenir un partenaire de premier plan sur le marché du vin dans la prochaine décennie, un marché tiré par la hausse du revenu des ménages, c'est ce que nous dira Jean-Marc Chardon dans son billet économique à la fin de ce journal. Et puis à 7h15, le cinéma peut-il se passer de Netflix? C'est la question du jour que vous poserez Guillaume Erner en direct de Cannes à Pascal Breton, producteur de séries Marseille et le Bureau des Légendes notamment. L'Union européenne appelle à la retenue face à une escalade extrêmement inquiétante au Proche et Moyen-Orient. Après les raids aériens menés par Israël contre des positions iraniennes en Syrie voisine dans la nuit de mercredi à jeudi, en riposte à des tirs de roquettes iraniennes contre la partie du plateau du Golan sous contrôle d'Israël. Selon l'armée syrienne, les frappes israéliennes ont fait 3 morts et 2 blessés, mais l'Observatoire syrien des droits de l'homme fait lui état de 23 combattants tués, des Syriens et des étrangers. Israël précise ne pas vouloir d'escalade de la situation, mais tient à se défendre. Une ligne rouge a été franchie par l'Iran. C'est ce qu'a expliqué hier soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La correspondance de Marie Semelin.
C'est dans une vidéo d'une minute postée sur sa page Facebook que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est exprimé sur l'action militaire d'Israël de la nuit de mercredi. L'État hébreu intervient militairement depuis le début de la guerre sur ce terrain car il craint l'installation de son ennemi numéro 1 et de ses alliés comme le Hezbollah libanais à la frontière syrienne.
L'Iran a franchi une ligne rouge, notre réponse était en conséquence. L'armée israélienne a mené une attaque de grande envergure contre des objectifs iraniens en Syrie. Nous sommes engagés dans une bataille prolongée. Notre but est clair, nous ne laisserons pas l'Iran s'établir militairement en Syrie.
Le cabinet de sécurité s'est réuni au quartier général de l'armée à Tel Aviv pour faire le point sur cette grave escalade militaire. Mais pour Israël, cet épisode est désormais terminé. J'espère que nous avons bouclé ce chapitre et que tout le monde a compris le message, a déclaré le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, qui affirme que la plupart des installations iraniennes en Syrie ont été détruites. Le régime syrien a lui averti qu'avec ces bombardements, c'est un nouveau chapitre de la guerre qui s'ouvrait.
Mais si la pluie nous tombe dessus, la tempête s'abattra sur eux, a prévenu hier le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman. Et dans le repositionnement régional en cours vis-à-vis de l'Iran chiite, le royaume de Bahreïn, proche allié de l'Arabie saoudite sunnite, mais sans relation diplomatique avec Israël, le Bahreïn a affirmé que l'État hébreu avait le droit de se défendre. Israël qui refuse, on l'entendait, de laisser l'Iran s'établir militairement en Syrie. Israël qui craint l'influence de Téhéran dans toute la région, appuyée par des milices chiites du Yémen en Irak en passant par le Liban où nous retrouvons notre correspondant Omar Waman.
L'Iran n'est pas seul dans la région. Téhéran peut s'appuyer sur un axe chiite qui va de Bagdad à Damas en passant par Beyrouth et Sanaa au Yémen. En Irak tout d'abord, où sont déployés près de 6000 soldats américains. La menace pourrait venir des milices chiites du sud du pays, formées, financées, encadrées par le puissant voisin iranien et prêtes à attaquer ou à enlever des militaires américains. En Syrie, l'Iran est désormais bien implanté. La brigade Al-Quds du général Qassem Soleimani a installé un véritable front militaire à la frontière nord d'Israël. Ces missiles peuvent frapper l'État hébreu en profondeur. Au sud Liban, le redoutable Hezbollah possède un arsenal militaire digne d'une armée. Le Parti de Dieu fait pour l'instant profil bas mais attaquera dès que l'ordre lui sera donné. Et enfin, au nord du Yémen, où les rebelles Houthis disposent de centaines de missiles balistiques capables de frapper Riyad, capitale de l'Arabie saoudite, alliée d'Israël et ennemie juré de l'Iran.
Omar Waman à Beyrouth pour France Culture. Nous nous attendons à ce que l'Iran continue d'appliquer le protocole additionnel et coopère avec l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est ce qu'a déclaré hier soir un porte-parole de la Maison Blanche alors que les États-Unis ont annoncé leur retrait de l'accord sur le nucléaire iranien. Nous devons être en mesure d'aller sur un site en Iran, dans leur base militaire, pour savoir si oui ou non ils trichent. C'est ce qu'a également lancé hier soir Donald Trump lors d'un meeting dans l'État de l'Indiana. Encore méversant asiatique, le président des États-Unis est également revenu hier soir sur sa prochaine rencontre avec le dirigeant nord-coréen.
Le 12 juin, à Singapour, je rencontrerai Kim Jong-un pour poursuivre un avenir de paix et de sécurité pour le monde, entier. Notre relation est bonne, mais souvenez-vous, tout le monde disait dans les fake news, il va nous embarquer dans une guerre nucléaire. Mais vous savez ce qui nous entraîne dans les guerres nucléaires ? La faiblesse. Pour le Japon, la Corée du Sud, la Chine, pour tout le monde, je pense que ça va être un vrai succès.
Donald Trump, hier soir, lors d'un meeting dans l'État de l'Indiana aux États-Unis, des propos recueillis par Isabelle Labéry. Et avant le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un le 12 juin prochain à Singapour, alors qu'un accord sur le nucléaire est loin d'être trouvé et que l'ouverture de la Corée du Nord est encore très incertaine, en Corée du Sud, beaucoup d'institutions se préparent déjà à la possible relance des échanges avec le voisin nord-coréen. La correspondance à Séoul de Frédéric Ojardias.
Les collectivités et les entreprises sud-coréennes frétillent d'impatience. Elles se préparent déjà à la reprise pourtant hypothétique des activités de coopération et de commerce avec la Corée du Nord. La ville portuaire de Busan a ainsi mis sur pied une équipe qui discute de projets conjoints dans le secteur de la pêche, raconte le quotidien Chungang. Une autre ville portuaire, Incheon, rêve elle de tourisme et de croisières qui passeraient par la Chine et la Corée du Nord. Des provinces planifient l'envoi de médicaments contre la tuberculose et la malaria. Les entreprises ne sont pas en reste. Le conglomérat Hyundai a établi un groupe de travail pour préparer la relance au plus vite de ces deux grands projets au nord, une zone industrielle et un parc touristique qui accueillait autrefois des Sud-Coréens. Mais ces ambitions ne se réaliseront que lorsqu'un accord nucléaire sera trouvé et que les sanctions qui frappent Pyongyang seront levées. C'est pourquoi toute la Corée du Sud ronge son frein en attendant le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un.
Frédéric Ojardias à Séoul pour France Culture. Des représentants américains et chinois vont se réunir aujourd'hui à Washington pour discuter du différend commercial qui oppose leurs deux pays sur la question du relèvement des taxes douanières américaines sur des produits chinois et du déficit commercial de Washington vis-à-vis de Pékin. Dialogue en amont de la visite du principal conseiller économique de la Chine. C'est ce qu'a annoncé hier un responsable du département américain du Trésor. Le dirigeant indépendantiste Carles Puigdemont renonce à redevenir président de Catalogne, celui qui est dans l'attente d'une éventuelle extradition de l'Allemagne vers l'Espagne. Madrid voudrait le juger pour rébellion et détournement de fonds publics. Carles Puigdemont a enregistré hier une vidéo où il désigne un nouveau venu en politique, Quim Torra, un éditeur de 55 ans, comme candidat à sa succession. Il avait brièvement présidé pendant quelques mois en 2015 la puissante association indépendantiste Omnium Cultural. Il présente l'avantage de ne pas faire l'objet de poursuites judiciaire. Il est 7h08 sur France Culture. Les cheminots de retour au ministère des Transports. Après avoir boudé la ministre Elisabeth Borne pendant 3 semaines, après avoir été reçus lundi à Matignon, les syndicats sont invités à présenter leurs amendements au projet de loi de réforme du ferroviaire. Mais seuls 2 syndicats sur 4, sur les 4 représentatifs à la SNCF, se rendront ce matin au ministère des Transports. La CFDT à 8h, puis l'UNSA à 10h. Guillaume Gavenne.
Pour la première fois, ils ne seront pas tous ensemble au rendez-vous. Seuls les syndicats dits réformistes feront le déplacement, UNSA et CFDT. Pas question de rater l'occasion, estime Sébastien Mariani, secrétaire général adjoint de la CFDT cheminot.
Nous avons effectivement des propositions qui ont été formalisées, comme nous l'avons annoncé au Premier ministre, et nous entendons effectivement en discuter avec la ministre des Transports et présenter ses propositions.
Les autres syndicats ne veulent plus perdre leur temps, comme l'explique Bruno Poncet, l'un des secrétaires fédéraux Sudrail.
Nous, on n'ira pas, déjà pour la bonne raison, on y était pendant 2 mois, on s'est enrhumé dans leur couloir un peu vite, donc on a trouvé qu'il n'y avait pas de raison d'y retourner.
À la CGT Cheminots, on botte en touche. L'important n'est pas ce que les cheminots ont à proposer, mais ce que le gouvernement prépare, résume Laurent Brun, le secrétaire général.
Que le gouvernement nous dise ce que lui, il va proposer, qu'il nous présente des éléments concrets, qu'il ne soit pas simplement dans l'écoute. Si le gouvernement veut vraiment sortir du conflit, il faut qu'il entende que sa méthode, jusqu'à présent, n'a fait que maintenir le conflit. Donc il faut qu'il change de méthode.
L'intersyndicale a donc formellement demandé une table ronde au Premier ministre pour la semaine prochaine. Réponse de Matignon qui botte également en touche. Le législatif, ça se passe chez la ministre des Transports, pas à Matignon, dit-il.
Et le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, annonce une nouvelle série de gestes commerciaux pour compenser la période de grève auprès des usagers. 3 millions de billets de TGV à moins de 40 euros vont être mis en vente entre le 15 mai et le 31 août. Des cartes jeunes, seniors, enfants plus et week-ends seront proposées à 29 euros au lieu de 50 à 75 euros. Mais il n'y a là rien d'exceptionnel dans ce geste, estime la FNOT, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports. De telles promotions avaient déjà été mises en place plusieurs fois ces dernières années. Les partiels s'annoncent mouvementés aujourd'hui pour plusieurs milliers d'étudiants de Nanterre, alors que leur faculté reste occupée par les opposants à la réforme du droit d'accès à l'université et que la plupart des examens de fin d'année ont été remplacés par des devoirs à la maison. En droit et sciences politiques, les partiels sont maintenus. Les étudiants vont composer à partir de ce matin à la maison des examens d'Arcueil dans le Val-de-Marne, du moins s'ils y parviennent, car les opposants à la loi université entendent bloquer la tenue des partiels dès 7h30. On se souvient le mois dernier des interventions très médiatisées des militants de Génération Identitaire à la frontière franco-italienne. Le groupuscule d'extrême droite avait déployé un grillage au col de l'Échelle près de Briançon le 21 avril pour inciter les migrants à renoncer à entrer en France. Sur le front judiciaire, le parquet de Gap avait ouvert une enquête le 27 avril avant de la classer sans suite, faute d'infraction, avait précisé le procureur. Une absence de sanctions mal perçue du côté des associations de soutien aux migrants, poursuivie, elle, par la justice pour avoir franchi la frontière avec des migrants le 22 avril. Alors, y a-t-il eu deux poids, deux mesures? En tout cas, contrairement à ce que disait le procureur de Gap, les militants identitaires auraient pu être poursuivis en justice. C'est une circulaire de la chancellerie révélée par nos confrères de Mediapart qui le rappelle à tous les procureurs de France, Corinne Audouin.
Dans ce document, envoyé le 4 mai à tous les tribunaux, la chancellerie ne désavoue pas directement le procureur de Gap, mais rappelle l'existence de 2 infractions bel et bien inscrites au code pénal au chapitre usurpation de fonction. Il y a d'abord l'immixtion dans une fonction publique, punie de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Le contrôle des frontières est une fonction publique en prétendant surveiller la frontière entre la France et l'Italie, en érigeant une barrière, même symbolique. Les militants de Génération Identitaire aurait donc pu être poursuivi pour avoir accompli un acte réservé aux forces de l'ordre. L'autre infraction rappelée dans la circulaire, c'est l'exercice d'une activité créant la confusion avec une fonction publique. Avec leur doudoune bleue, les identitaires ont pu faire croire aux migrants qu'ils étaient de la police ou des douanes. Une infraction punie d'un an de prison et 15 000 euros d'amende. Contrairement à ce qu'ils prétendent, les militants d'extrême droite n'ont donc pas la loi de leur côté, même en l'absence de plainte, les procureurs ont les moyens légaux de les poursuivre.